Fais comme ci, fais comme ça, l'émission des parents, chaque mercredi de 18h à 19h avec Aurore, Katia et Ludovic.
Bonsoir à tous, bienvenue dans Happiness, fais comme ci, fais comme ça, c'est l'émission des parents. Tous les mercredis, vous nous retrouvez des 18h jusqu'à 19h en direct. Bonsoir Perrine.
Bonsoir.
Bonsoir Katia.
Bonsoir.
Ravie de vous retrouver ce soir avec ce beau temps.
Oui.
Pour une fois. Enfin, là, on a une petite accalmie après la pluie.
Le beau temps.
Petite pensée pour Ludovic qui n'est pas présent ce soir. Je suis sûre qu'il va nous écouter et qu'il va être un peu déçu parce que le sujet de ce soir est très intéressant. Comme tous les sujets en même temps.
En même temps, tu dis ça à chaque fois.
Oui, mais c'est vrai que tous les sujets sont sympas.
Oui, c'est vrai. Et en plus, à chaque fois, on a des super intervenants, donc on est hyper contents.
Exactement. Alors, c'est vrai que nous, Katia et moi, tu vois, on a des enfants plus âgés. Donc, on a un peu perdu dans tout ce qui est couche, biberon, etc. Et on sait surtout que les choses évoluent. Donc, on est heureux de t'accueillir ce soir. Alors, toi qui es, tu vas un peu nous expliquer ton parcours, mais tu es naturopathe, il me semble.
Oui.
Et pas que, tu vas nous expliquer tout ça. Et tu t'es spécialisée dans la diversification alimentaire.
Ouais.
Donc je pense que c'est encore un sujet très intéressant pour les parents qui nous écoutent et qui vont pouvoir bénéficier de tes précieux conseils. Merci tout d'abord d'avoir accepté et d'intervenir sur ce sujet. Alors raconte-nous un petit peu, Perrine, ta spécialisation, mais aussi ton parcours, pourquoi t'en es venue à ça.
Alors, donc, je m'appelle Perrine Vandecamp de la Haire. Aujourd'hui, je suis naturopathe réflexologue à Compiègne. J'ai commencé un parcours en industrie agroalimentaire. Donc, j'ai fait des études dans ce domaine et j'ai travaillé pendant 10 ans en industrie spécialisée dans l'alimentation bio et sans gluten. Et en fait, dès lors que j'ai été diplômée, donc à 23 ans, j'ai découvert la naturopathie et je savais que j'avais envie d'en faire un métier. Mais j'ai mis du temps à me lancer dans ce domaine, étant donné que c'est une profession qui aujourd'hui n'est pas reconnue.
Exact.
Et un jour, je me suis dit, je vais arrêter de vivre, de rêver ma vie. Et donc, je me suis lancée dans l'aventure de la naturopathie. Et donc, j'ai fait une formation sur 4 ans et je suis installée en cabinet depuis 3 ans maintenant.
À ton compte ?
À mon compte, sur Compiègne. Et donc, j'ai eu un enfant il y a 2 ans bientôt. Et j'en ai profité justement pour m'immerger à fond dans l'alimentation infantile et la diversification. C'est un sujet qui me passionne. C'est vraiment important et magique de voir son enfant grandir et s'épanouir en découvrant l'alimentation. Et donc, je l'accompagne avec gourmandise, joie et bonne humeur dans ses repas.
Bah écoute, super. Alors, je vois que tu as mis plein de choses avec toi, donc tout au long de l'émission, tu vas pouvoir un peu nous expliquer ce que tu as appris. Alors c'est vrai que les auditeurs, du coup, ils ne vont pas forcément voir, on prendra peut-être des photos,
oui,
mais
limite,
on va expliquer un petit peu tout ce que c'est. Est-ce que Katia, on peut peut-être commencer tout simplement à réexpliquer ce que c'est la diversification alimentaire?
En fait, ça consiste tout simplement à introduire des aliments autres que le lait, parce que c'est vrai que le bébé, au tout début, quand il naît, il ne prend que ça. Et donc du coup, alors je sais que nous, c'est un peu, on n'a pas vécu la même chose, que ça a vachement évolué. Et donc du coup, c'est remettre donc dans l'alimentation du nourrisson, soit qu'il soit allaité ou par le biais des biberons. Et ça conduit progressivement à une alimentation familiale jusque vers un ou deux ans. Ça dépend après. Enfin, ça a peut-être évolué depuis, mais c'est à peu près l'âge où on commence à diversifier.
Des fois, notre bébé, il est beau comme, il est super beau, mais en fait, on le croit encore trop mince. On se dit non, il est pas assez potelé, ou je suis sûre qu'il a faim. Enfin, des fois, c'est plutôt de
un stress
qu'un un vrai besoin de l'enfant.
C'est surtout quand il pleure aussi, t'as toujours l'impression qu'il manque de quelque chose. Donc, quand tu trouves rien, que la couche est propre, etc., tu dis il doit avoir faim, forcément.
Voilà. C'est ça. Et puis, des fois, il y a aussi des bébés qui grandissent très vite. Donc, dans ces cas-là, ça peut aussi être justifié le fait qu'on diversifie un peu plus tôt.
Oui, c'est vrai que moi, mon fils, mon premier, il faisait 3,860 kg. Donc, déjà, en sortant de maternité, il frôlait les 4 kg. Donc, forcément.
Ah, voilà. Oui, quand même.
Ouais, donc, forcément, 2 mois et demi, il avait faim, quoi.
Voilà. Je comprends mieux.
L'indication, c'est vraiment le reflux. Si oui ou non, il y a du reflux, est-ce que le bébé dort bien? Est-ce qu'il pleure beaucoup? On observe son bébé pour un petit peu adapter le moment idéal.
Tant que j'ai allaité, c'était nickel. Oui. C'est commencé les pleurs quand j'ai commencé avec les biberons, en fait.
Oui.
Ouais.
C'est... Comme quoi, c'est l'enfant, il a besoin d'un laps de temps aussi. Hein. Lui changes quand même ses habitudes,
quelque part. Hein. Ah, mais moi, il faisait la nuit avec l'allaitement. Il faisait ses nuits en sortant de la... Enfin, il faudrait qu'il ait été en néonat 10 jours, mais il faisait les nuits. Il n'est pas arrivé prématurément, c'est qu'il a eu un souci en arrivant. Mais n'empêche que, en sortant de il est resté 10 jours en néonat et il sortait, il a fait ses nuits. avec l'allaitement, il dort, enfin quand je dis 6 et demi, il dormait 6 heures. Donc c'est pour un bébé.
Oui, mais c'est une belle nuit, oui.
Pas mal, hein, dès le début, c'est super.
Mais oui. Ouais. Et en fait, il faut juste savoir que les laits infantiles maternisés, c'est des laits transformés et fabriqués pour tendre vers un lait maternel. Donc ça reste des laits qui sont qui essayent de convenir aux besoins des enfants, ouais. mais qui sont pas. C'est pas l'idéal entre guillemets. Ouais. Donc l'allaitement reste le voilà.
Ouais,
le
mais à l'époque, voilà. on n'avait pas les tirelets, les machins.
Voilà.
Et tout ça.
Non, mais c'est pas. C'est pas. Ans.
Et c'est vrai que maintenant, aujourd'hui, je me dis, mais oh, si j'avais eu qu'à cette époque-là, j'aurais pu l'allaiter plus longtemps, etc.
Oui, après, voilà. faut vraiment se déculpabiliser. On fait ouais. tout ce qu'on peut au moment, bah, au moment présent.
Non,
voilà.
mais c'est vrai que c'est pas. Je me rends pas coupable, mais je me dis, oh, ça aurait été quand même génial.
voilà. Mais en fait, mais ce qui peut expliquer un reflux aussi, voilà, le passage à un lait maternisé.
Et du coup, toi, tu conseilles de commencer par plutôt les fruits ou les légumes ?
Alors, ça, c'est assez controversé. Moi, j'aime bien commencer par les légumes parce que ça permet de faire moins monter la glycémie.
D'accord.
Donc, en fait, on sollicite un petit peu moins le pancréas de l'enfant. Donc, ça laisse le temps à la glande pancréas de mûrir un petit peu plus. Voilà. Donc je vais commencer par les petites carottes, par le potimarron, par la butternut.
Parce que les fruits, c'est sucré naturellement, ouais, c'est voilà. vrai qu'on n'y pense pas.
Voilà. En fait, enfin, un enfant avec une bonne santé, un bon patrimoine génétique, il n'y a pas de problème. Il commence par fruits ou légumes, il n'y a aucun souci. Ça peut être une petite poire bien mûre en compote, une petite pomme bien mûre, mais bon, moi, dans l'ordre chronologique, je commence par les légumes.
Ah super. Et une fois la diversification commencée, il est recommandé d'introduire sans tarder les allergènes alimentaires majeurs tels que les produits laitiers, tu sais, les œufs, l'œuf, l'arachide, que l'enfant soit à risque d'allergie ou non. D'ailleurs, justement, on s'était posé une question avec Katia, enfin toi tu m'avais répondu Katia, mais moi je me posais la question si quand toi en tant que parent tu as des allergies alimentaires, est-ce que tu t'es pas un petit peu en stress en se disant oh là là, j'espère que mon enfant va pas développer également ce type d'allergie. Mais Katia, tu avais l'air de dire que c'était pas
Bah, alors en fait, moi mes trois enfants, il y en a aucun qui est allergique. D'ailleurs ma fille, elle a même fait des tests parce qu'elle avait le nez qui coulait tout ça tout le temps et en fait non, elle a pas d'allergie. Et moi j'ai jamais été allergique et j'ai commencé une allergie à 35 ans.
Allergie alimentaire, je te parle.
Allergie alimentaire ? Non, moi c'était pas alimentaire.
Bah ouais.
Mais n'empêche que
la question qu'on se pose aujourd'hui, c'est surtout est-ce que les allergies alimentaires c'est héréditaire ?
Alors en fait, effectivement, quand un enfant a des antécédents familiaux allergiques, donc une maman, un papa, et ben en fait, il a quand même plus de risques d'avoir des problématiques allergiques ensuite. Enfin, quand il naît, voire un petit peu quelques années après sa naissance. Donc ça, c'est vrai. Après, il ne va pas forcément être allergique. Enfin, c'est pas forcément une nécessité. Enfin, pardon, ça va pas forcément se manifester. Voilà.
Ah oui.
Il est à risque. Il a plus de risques de contracter une allergie alimentaire, mais c'est pas forcément. Enfin, il va pas forcément la contracter. Voilà. Donc ça, c'est à prendre en considération par rapport à ce qu'on appelle la fenêtre de tolérance. Elle est entre 6 et 9 mois. Maximum. Donc, entre les 6 et 9 mois, on va essayer d'introduire les 14 allergènes principaux, y compris pour les enfants avec risque d'allergie, c'est-à-dire avec antécédents familiaux allergiques. Et y compris pour les enfants qui manifesteraient une tendance allergique. D'accord ? Donc, mais dans ces cas-là, la stratégie, ça va être la même, sauf que la prudence va être multipliée. D'accord, les parents devront être encore plus prudents quand ils introduiront des allergènes.
Ouais, c'est-à-dire que ça, on va les introduire, mais il y aura une vigilance. Ouais,
voilà. Alors un allergène, il y a 14 allergènes. Je sais pas si je vais réussir à tous les citer là de tête.
Ouais. Mais... Ah,
voilà. Il y a le lait.
On l'a peut-être dit comme les œufs.
Ouais,
tout ça,
le lait, les fruits à coque, les arachides, le sésame, tout ça c'est un peu dans les fruits à coque. Le lupin, les mollusques.
Ah le lupin là.
Ouais.
C'est une fleur ?
Le lupin, c'est en fait, on peut en faire une farine. C'est une légumineuse riche en protéines qu'on peut retrouver dans certaines recettes de panification, souvent. Qu'est-ce que j'ai dit ? Les mollusques, la moutarde, les œufs. J'allais oublier les œufs.
Le gluten, bon, on en a parlé ?
Le gluten, je ne l'ai pas dit. Le gluten, là, on en est à 9, il nous en manque 6. Bon.
Ouais,
j'ai...
Je pense que les produits.
Le soja, il nous en manque 4. Bon, je ne les ai pas notés là, ça ne me vient pas spontanément.
Ça peut
mais
se retrouver assez
facilement. En tous les cas, il y a 14 allergènes principaux. Et donc, ces 14 allergènes, on va essayer de les proposer à l'enfant entre 6 et 9 mois. C'est à chaque fois un allergène par allergène. C'est-à-dire qu'on ne va pas proposer de l'amande avec un œuf, par exemple.
Oui.
Ouais, parce que dans ces cas-là, il y a deux allergènes. Il y a un fruit à coque.
Lequel il va pas
voilà.
tolérer.
Voilà, donc c'est un allergène par allergène. L'allergène, on le propose le matin ou le midi pour qu'en fait, on puisse voir comment réagit l'enfant. On le propose surtout pas le soir parce que sinon, on n'a pas de contrôle sur l'enfant qui va dormir.
Exactement.
Donc, on le propose le matin ou le midi. Ensuite, on a une observance. On est très vigilant dans les deux heures qui suivent l'ingestion. On s'assure que l'enfant n'a pas de réaction type gonflement, surtout gonflement ou éruption cutanée importante. Après, ça se peut que l'enfant il ait des petits boutons autour de la bouche. Ça, c'est très fréquent. Il fait son immunité intestinale, c'est normal qu'il, sur certains aliments, il réagisse. Mais c'est pas grave du tout.
D'accord, c'est pas forcément parce qu'il est allergique alors.
Non, c'est une réaction immunitaire.
Okay.
Une réaction immunitaire parce qu'il n'avait pas encore rencontré cet allergène. Donc le temps qu'il fasse son immunité, il y a une petite éruption cutanée autour de la bouche. Donc c'est un allergène par allergène, introduit matin ou midi, et on va l'introduire 3 jours de suite.
D'accord.
Donc ça, on a sensibilisé l'enfant. Et ensuite, pour ne pas perdre cette sensibilisation, eh bien en fait, on reproposera l'aliment plusieurs fois dans le mois.
D'accord.
Et ensuite, on essaiera de le proposer régulièrement dans son alimentation, surtout sur la première année de vie.
Ah ouais, donc c'est quand même vachement suivi en fait.
Ouais.
Alors c'est vachement suivi. En même temps, moi, j'essaie de faire un accompagnement pratique. C'est-à-dire que je cite les 14 allergènes et dans ces cas-là, je donne des idées d'introduction.
Ouais.
Voilà. Et donc, en fait, je donne un chemin d'introduction. L'allergène le plus simple à introduire, je trouve que c'est l'amande, sous forme de purée d'amande.
D'accord.
Vous mettez un petit peu de purée d'amande dans la purée de légumes.
D'accord.
Et voilà, l'amande est introduite. Vous faites ça 3 jours de suite. Et après, de toute façon, la purée d'amande, c'est un aliment magique à avoir dans son placard parce qu'elle est source de calcium. Et donc, ça permet, dans la diversification alimentaire, moi, je suis vraiment partisante d'une alimentation diversifiée, sans éviction, mais sans excès. Et en fait...
Est-ce que tu peux rappeler ce que c'est que l'éviction ?
Alors, une éviction, c'est quand on ne mange pas un aliment de façon stricte. Ça, par exemple, on est 100% sans gluten. On est 100% sans produits laitiers, on est 100% sans viande ni poisson. Voilà, ça c'est une éviction, c'est-à-dire qu'on retire un aliment strictement de son alimentation.
Mais tu le retires parce que c'est dans... Enfin,
alors ça
parents,
peut être des convictions parents, personnelles,
voilà,
dans le cadre du végétarisme ou végétalisme. Ou alors, voilà, même pour les produits laitiers. Après ça peut être des convictions de santé également. Et donc, dans mon approche en tant que thérapeute... en mon nom, j'encourage à avoir une alimentation diversifiée sans éviction parce que dans chaque catégorie alimentaire, on retrouve des bienfaits, y compris dans la viande, on retrouve de la vitamine B9 et B12, etc. Par contre, j'encourage à une réduction importante des produits laitiers.
D'accord.
Voilà.
Ça pour tous les parents, tu veux dire ?
Pour, on va dire, tous les enfants, parce qu'un produit laitier à chaque repas, c'est beaucoup trop et ça encourage la survenue de problématiques ORL.
Ah oui.
Otite, sinusite, bronchite, également asthme. Voilà, ça peut vraiment engendrer à la fois des problèmes cutanés et à la fois des problématiques ORL. Donc des fois, quand un enfant a des otites à répétition, ou alors un enfant, mon enfant, il a de l'asthme, des fois, en fait, on retire juste les produits laitiers et ça va déjà beaucoup mieux. Ça peut être une piste. Hein. Je
D'accord.
dis pas que c'est que
ouais.
une seule piste, mais donc du coup, pour moi, le produit laitier, il a à introduire, par exemple. Je vous parle en mon nom. Moi, mon fils s'appelle Marin. Donc à Marin, je lui propose maximum un produit laitier un jour sur deux.
D'accord.
Et il a même des semaines où il n'a pas de produit laitier. Par contre, je lui donne beaucoup de sources de calcium dans sa journée.
Pour ça, tu parlais des amandes tout à l'heure.
Voilà. D'accord. En fait, il a beaucoup de sources de calcium dans sa journée. Donc lui, Marin, il a été allaité jusqu'à 18 mois. Il avait 4 tétés par jour jusqu'à ses 10 mois. 3 tétés par jour jusqu'à ses 12 mois et ensuite il avait 2 tétés par jour jusqu'à ses 18 mois. Donc j'insiste que sur le fait que le lait reste l'aliment principal de bébé jusqu'à 12 mois.
Ouais.
Donc si c'est un bébé allaité, il y a une tétée qui est proposée à chaque repas, plus des aliments solides à partir de 6 mois.
Et si c'est un lait 500 ml de lait ou pas ?
Comment ?
Le dosage en fait.
Alors le dosage, c'est entre... En général, c'est quand même plus autour de 800 ml jusqu'au 1 an. 500 ml, on a commencé déjà à réduire le lait. D'accord. 500 ml, moi, on commence à baisser vers les 10 mois, mais pas en dessous de 500 ml. Et j'encourage plutôt à aller vers les 800 ml par jour. Après, ce n'est pas un problème de passer à 500 ml à partir des 10 mois. Qu'est-ce que je voulais dire sur le lait ? Voilà, donc ça reste l'aliment principal. Et si ce n'est pas un bébé allaité, eh ben, c'est pas grave. On prend du lait maternisé qui reste l'aliment principal du bébé jusqu'à un an. D'accord ? Même si j'ai dit tout à l'heure que c'était un produit qui essayait de faire comme le lait maternel et qu'il n'est pas parfait, ça reste quand même du lait qui a été fabriqué pour répondre aux besoins nutritionnels de l'enfant.
Ah, dedans, il y a tout ce qu'il faut.
Voilà.
Quand même.
À partir de un an, si la diversification est bien faite et si tous les besoins de bébé sont couverts, toutes sortes de lait peut être arrêté. Mais c'est vraiment à condition que la diversification soit bien menée. Et c'est pour ça que moi, j'aime bien accompagner les parents parce qu'il faut quand même être bien accompagné quand on ne connaît pas tout ce domaine-là pour ne pas faire d'erreur. Donc,
en fait, enfin, je sais pas, j'ai l'impression que du coup, tout ce qui peut être allergique, des problèmes ORL, comme tu disais tout à l'heure, serait presque pu être évité si on a un accompagnement.
Mais par contre, il faut vraiment être bien accompagné parce que moi, c'est tout un cheminement, c'est une pratique que je fais depuis 15 ans, donc en fait, je baigne dedans. Par contre, je peux comprendre que ce soit compliqué pour une personne qui ne connaît pas la purée d'amande, la purée de sésame, etc.
Ça,
Donc, c'est pour ça qu'on peut y aller par étapes. On peut déjà commencer par retirer un produit laitier par jour, le remplacer par de la purée d'amande. Après, on retire un autre produit et on remplace par une autre source de calcium. Voilà, on peut y aller par étapes.
Il faut du calcium quand même à chaque fois.
Voilà, et donc là, juste pour que je puisse aller au bout de cette explication, pour que vraiment les parents aient toutes les sources d'informations, sur le calcium, il y a plein de sources qui peuvent être proposées à l'enfant. Déjà, il faut essayer que l'enfant il mange des légumes verts tous les jours. L'idéal, midi et soir, sinon au moins un repas principal. Les légumes verts, c'est difficile à faire consommer à l'enfant. Donc on va essayer de les faire cuire à l'étouffée. Donc ça va être des poêlés de poireaux, ça peut être des choux chinois à l'étouffée, ça peut être des épinards, etc. Quand il a du mal à manger les légumes verts, il faut penser à la crème de coco qui est sans produit laitier et qui adoucit, qui donne de la crème, un côté crémeux. Et n'hésitez pas aussi à mixer les légumes verts avec une pomme de terre, à les mélanger avec du riz, ça fait du riz marbré.
Ah oui.
Voilà. Vous voyez, en fait, n'hésitez pas à ajouter des petites épices. En général, les enfants, ils aiment bien le curcuma, le curry, ils aiment bien toutes ces choses-là, le cumin, ils aiment bien.
Et à partir de quel âge on peut donner des épices ?
6 mois.
D'accord.
6 mois, on ira sur curcuma, cumin, cardamome.
J'aurais jamais pensé à donner des épices.
Curry doux, paprika doux. Voilà, des petites épices très douces. La ciboulette et du thym. Voilà, à peu près. Après la cannelle, on attendra un an. Et tout ce qui est poivre, tout ça, on attendra même un peu plus longtemps.
D'accord.
Voilà. Donc, les légumes verts. Après, la purée d'amande qu'on met dans les compotes. Donc, ça fait par exemple, là, j'ai une purée d'amande, ça fait pomme amande. Ça peut être pomme noisette. Voilà.
D'accord.
Des graines de chia, donc graines de chia moulues. On achète, en fait, toutes les petites graines oléagineuses, elles sont riches en minéraux. Les graines oléagineuses les plus riches, ça va être le chia, les graines de chia, le sésame.
Mais pour le transit, les graines de chia pour un enfant, c'est pas trop justement ?
Non, c'est très bien. C'est très très bien, il faut pas en avoir en excès. Par exemple, au départ, je mettais une demi-cuillère à café. Après, je suis montée à une cuillère à café. Et après, je suis montrée à une cuillère à café légèrement bombée par jour.
Mais ça, tu mets dans quoi ?
Dans une compote. Dans une compote. Faut
sucré,
que ce soit
sucré, donc du coup.
Alors, graines de chia.
Ouais.
Moi, je le mets plutôt dans des compotes sucrées. Enfin, sans sucre ajouté, hein. Mais
oui.
Je le mets pas dans une purée de légumes.
D'accord.
C'est ce que tu voulais dire.
Oui.
Voilà. Après, tu pourrais très bien le mettre dans une purée de légumes, hein. Mais je trouve que ça se marie très bien dans un dessert. Enfin, Et donc, sésame, graines de chia, purée d'amande, purée de sésame, tahine, qu'on va venir étaler sur une tranche de pain complet bio au levain, par exemple. Ensuite, il y a le lithotame. Le lithotame, c'est une algue en poudre que moi, je viens rajouter dans les préparations de marin également. Donc, par exemple, le matin, je vais lui faire facilement un lait à la banane. Donc, je vais prendre du lait d'amande, une demi-banane. Et je prends une pointe de couteau de lithotame, je mixe tout, ça
c'est
fait un lait. Alors le lithotame, c'est une algue en poudre et
D'accord.
elle est très riche en calcium.
D'accord. D'accord.
Voilà. Donc des légumes verts tous les jours, du lithotam tous les jours, de la purée d'amande tous les jours.
Il y a plein de noms que je connaissais.
On alterne chia et sésame. En plus, on met l'enfant face aux allergènes, donc ça, c'est encore mieux, on fait son immunité. Des algues en paillettes. En fait, plus vous sensibilisez les enfants à ce type de saveur tôt, et ben l'enfant, il n'est pas dérangé. Je vous promets que mon fils, il a été sensibilisé à cette saveur d'iode. Il adore ça. D'accord. Et tout ce qui est sardines aussi, dans ce cas-là, on retire pas les arêtes. On lui propose des moules.
Pourquoi on ne retire pas les arêtes?
Parce qu'on retrouve le calcium dans les arêtes. Donc en fait,
moi, j'enlève les arêtes à chaque fois.
Ah oui, oui. Mais par contre, il faut que ce soit des sardines en conserve. Donc en conserve en verre, si c'est possible. Et selon les budgets des familles. Et ensuite, on écrase. Donc ça... Au tout début, c'est toujours mixé, hein, tout ce qui est viande, poisson, etc. Mais on mixe aussi, voilà. Donc, les algues en paillettes, ça, on les met avec des pommes de terre, du riz, dans une purée, etc. Ils adorent. Qu'est-ce que je pourrais vous dire d'autre en source de calcium?
En fait, les paillettes, ça donne...
Et après, il faut aller surtout sur tout ce qui est céréales complètes. Donc, vous allez en trouver fait, ça dans l'avoine.
Pour le coup, les paillettes, ça ressemble à un sac de confettis.
En fait, c'est
violet et vert. Je ne sais pas si c'est tout comme ça. Mm-hmm. Mais en fait, c'est violet et vert. Parce que c'est vrai que les auditeurs ne voient pas, nous, on voit en vrai.
Oui.
Et en fait, ça ressemble à. Ouais, soit comme un gros sachet de thé.
Oui.
Ou alors, j'avais dit comme des confettis en papier. Là, voilà. C'est vraiment... tu voulais regarder, Aurore?
Oui, volontiers, merci.
Et ça sent très bon parce que je l'ai à peine touché. On a l'odeur à travers le sac.
Oui, ça sent la mer.
Ouais, ça sent super bon.
Donc, et ça apporte ça... un petit goût un peu salé, non?
Iodé. Ça apporte vraiment un goût iodé à la préparation. Donc, moi, je fais des tartares d'algues. Et donc, en fait, pour les enfants...
Mais en adulte, on peut les prendre aussi, du coup.
Ah oui, vous faites des tartares d'algues. Là, je donne des conseils pour les enfants.
Ouais, mais ça peut être pour les parents. Parce que moi, j'aime bien découvrir des nouveaux goûts comme ça.
Bien sûr.
Et, tu fais un apéritif et tu fais connaître des nouveaux goûts. Je trouve ça génial aussi.
Tout à fait. Tout à fait.
Et tu trouves ça en magasin bio? Ah,
oui, alors moi, là, c'est en gros volume. Hein. Je les achète chez un producteur breton. Donc, je me fais livrer un gros carton par an. Voilà.
Bon, on va éviter les cartons.
Moi, j'avais une question d'une auditrice.
J'ai pas fini les sources de calcium, mais vraiment, il y en a plein. Voilà.
Justement, on parlait quand même du lait et du fromage. Elle demandait si on pouvait remplacer un biberon par un laitage ou du fromage. Qu'est-ce que t'en penses, toi, du coup?
Bah, en fait, moi, vous l'avez compris.
On est limite pas fan
du laitage.
Voilà. Donc, en fait, moi, je suis plutôt dans l'idée de réduire les produits laitiers plus que dans, enfin, des produits laitiers animaux. Hein. Ouais. Le lait maternel, parce que l'enfant, il est fait pour boire le lait d'un humain, pas un lait de vache ou un lait de chèvre. Enfin, chaque mammifère a créé un profil de lait adapté à son mammifère, à son bébé.
Oui, c'est vrai qu'on le donne du lait de la vache alors que nous,
en fait,
c'est notre lait à la
vache. Je ne sais pas combien pèse un veau à la naissance, mais c'est pas le poids d'un bébé. Hein. Et la croissance d'un veau, c'est pas celle d'un bébé.
Oui,
donc en fait, vraiment, les profils des laits sont adaptés à chaque besoin des mammifères. Donc moi, c'est pour ça que j'encourage les mamans à, si elles sont documentées, à réduire les produits laitiers, à les remplacer par d'autres sources de calcium que ceux des produits laitiers. Donc, remplacer un biberon par une portion de fromage, je dirais plutôt non. Et dans ces cas-là, moi, je vais plutôt lui conseiller de prendre une compote de pommes, mettre une cuillère à café de purée d'amande et une cuillère à café de chia moulu. Elle met les deux dans sa compote. Ça fait une superbe source de calcium. Ou alors, elle fait le fameux lait à la banane que j'ai proposé tout à l'heure. Lait d'amande, on mixe une demi-banane, on met une pointe de lithotam et on peut même rajouter une demi-cuillère à café de cacao non sucré. Je précise, cacao amer, non sucré. D'accord. Ce sera sucré avec la banane. Oui. Ça fait un lait au chocolat. Et les enfants, ils adorent ça.
Ah oui. Mais tu as un site petit. Parce que j'avais que sur ton, sur ton compte Instagram, tu faisais des recettes sans gluten, sans yaourt, sans laitage, etc. Et du coup, tu as ces recettes dont tu parles, elles sont sur ton Instagram ou pas?
Alors, en fait, il faut savoir que j'ai toujours cuisiné. Par contre, la naissance de mon fils a été un coup de boost sur le lancement de mon blog.
Ouais.
Parce que j'ai voulu l'accompagner sur l'alimentation sans qu'il soit frustré. Et pour moi, je pouvais pas m'inscrire dans l'alimentation classique, ça me correspondait pas du tout. Je me suis dit, il faut que je lui trouve des alternatives. Donc, je me suis mise à cuisiner plein de gâteaux sans sucre ajouté, pauvre en céréales, riche en fruits, hyper gourmand. Et je fais beaucoup de gâteaux cuits vapeur, donc le fondant aux pommes, le fondant à la patate douce et au chocolat, je fais le fondant à la banane, etc. Et Et donc toutes ces recettes sont sur mon blog. Elles sont destinées à la fois pour les femmes gourmandes qui ont envie de manger des desserts tous les jours sans se prendre la tête et sans culpabiliser.
Voilà. On a retrouvé Aurore. Voilà.
Et à manger à volonté, pas entre les repas, je précise, mais sinon c'est vraiment des super desserts hyper
sains. C'est
super plaisir
sans complexe.
Voilà, hyper sains. Donc je les ai faites pour ces femmes-là. Et puis aussi pour les enfants. Comme ça, les mamans peuvent cuisiner de super desserts. Elles font plaisir et elles font plaisir à leurs enfants.
Est-ce que du coup, il n'y a pas d'allergène ?
Elles peuvent en faire tous les jours. C'est sans gluten, sans produits laitiers, sans sucre ajouté. Et c'est
ils sont bons.
C'est testé, approuvé. Et alors, en fait, quand
les commentaires sont bons.
Quand j'ai une idée de recette, soit ça marche du premier coup, soit j'ai besoin de 3 essais. Des fois, ça peut m'arriver de faire 10 essais. Mais en tous les cas, je vais jusqu'à l'essai qui me convient.
Ouais.
Voilà. Donc sur mon blog, effectivement, il y a plein de recettes. Et puis, je propose aussi des choses pour les enfants. Donc il y a mon fameux lait à la banane, il y a mes pâtes à tartiner, il y a pâte à tartiner à l'amande, pâte à tartiner à la noisette, j'ai de la pâte à tartiner de Noël. Donc tout ça, c'est pour vraiment faire plaisir aux enfants et qu'ils aient des produits type conventionnel, mais façon santé. Voilà.
Super.
Est-ce qu'on peut rappeler le nom de ton blog ?
Oui. Alors, mon site internet, c'est vitanae.fr. Et puis sur Instagram, c'est Vitanae Cuisine Vitalité. Et sur internet, sur Facebook, c'est Vitanae Naturopathe Réflexologue.
Super. D'accord.
Voilà, mais le on va dire que la racine commune, c'est Vitanae.
Ouais, donc c'est si on en tapant Vitanae, on va te retrouver dans tous les cas.
Vitanae, c'est Vitanae.
Okay. On va faire une petite pause musicale et on revient tout de suite avec Perrine, naturopathe, qui nous parle de la diversification alimentaire. C'est super intéressant, je trouve.
Ouais.
À tout de suite sur Happiness.
À tout de suite.
Fais comme ci, fais comme ça, l'émission des parents, chaque mercredi de 18h à 19h avec Aurore, Katia et Ludovic.
Rebonsoir à tous.
Bonsoir.
Bonsoir. Alors ce soir, on parle de la diversification alimentaire avec Perrine. Alors tu nous as donné le nom de ton blog, on va juste te dire le petit mot magique, c'est Vitanae.
Oui. Ouais.
Et alors elle a des super idées de recettes, aussi bien pour les mamans que pour les bébés. Et puis surtout, tu es naturopathe, tu t'es vraiment spécialisée dans la diversification alimentaire et tu conseilles beaucoup de parents qui peuvent donc venir te consulter, c'est bien ça ?
Oui.
Sur Compiègne ?
Oui.
Pour donc répondre à leurs attentes et puis voir avec eux, là on a parlé quand même dans un premier temps des allergènes,
oui.
Comment les introduire, on n'a pas de quoi d'autre, c'était très intéressant.
On a parlé des produits laitiers, de la manière de réduire les produits laitiers, parce que comme disait Perrine, c'est vrai que nous on donne du lait de vache et des produits laitiers qui sont à base de lait de vache, et en fait c'est fait pour les veaux à la base, c'est pas fait pour les humains, donc c'est vrai qu'on s'en rend même pas compte. Pour nous, des produits laitiers, on nous a toujours dit que c'était du calcium, et donc Perrine nous a bien montré que du calcium on pouvait en trouver
dans plein de choses
alors c'est génial, parce que moi je m'attendais à diversification, comment on introduit les aliments, et en fait on a des nouveaux aliments qu'on ne connaissait pas, qui sont bourrés de calcium. J'ai appris qu'on pouvait mettre aussi des épices, donc je trouve ça génial aussi.
C'est super.
Ouais, c'est super intéressant. Et alors moi par contre j'avais des questions, parce qu'en fait la DME, c'est vrai que c'est hyper à la mode en ce moment.
Est-ce que tu peux me dire ce que c'est, parce que moi
je
fais les gros yeux là.
En fait, alors je sais que j'avais trouvé la définition, je sais même plus où je l'ai mis.
C'est la diversification menée par l'enfant.
Ouais, c'est ça, c'est la diversification menée par l'enfant. Et en fait, il va acquérir les compétences et les connaissances pour savoir combien de temps il doit mastiquer tel aliment, comment... En fait, moi, je l'ai vécu avec ma belle-fille qui a eu sa petite. Donc aujourd'hui, elle a 3 ans. Et donc, moi, j'avais fait les petits pots, tu sais, quand les enfants... parce qu'après, j'ai peur que ça s'étrangle. Et en fait, elle cuisinait des légumes, beaucoup d'ailleurs, des légumes qu'elle cuisinait pour qu'ils soient assez mous. Et en fait, elle lui coupait en gros morceaux. Je te dis comme je l'ai vécu.
Oui.
Et en fait, on lui donnait des légumes dans son assiette. Et en fait, c'était pour apprendre quand il faut qu'ils commencent à attraper, hein, déjà, pour pouvoir le faire. Et en fait, ils attrapaient et elle mangeait ses morceaux comme ça. Elle n'avait pas de cuillère, rien du tout. Elle mangeait avec ses mains des morceaux.
Oui,
ils sont cuits. Non, il faut que ce soit mou quand même.
Ah, oui.
Il n'y a pas forcément les dents. Donc en fait, ils mastiquent avec les gencives. Bon, après, il y en a, ils ont des dents de bonheur. Hein. Regarde, Louis XIV, il avait une dent en naissant. Et... ça nous nous en souvient, j'imagine. Mais n'empêche que. Bon, c'est rare.
Donc ça, ce serait plutôt à partir de 6 mois.
Je pense que c'est à partir de 6 mois.
Toi, t'es pas fan, je crois, Périne,
ouais.
Alors, de cette méthode.
Et donc, en fait, moi, ce qui me faisait peur, c'était la déglutition, parce que c'est vrai qu'elle avait tendance à s'entoquer, tu sais, quand. Et en fait, elle apprenait toute seule, et elle recrachait d'elle-même. Mais c'est assez
impressionnant.
Surtout que moi, j'avais pas du tout fait ça avec mes enfants, donc c'est assez impressionnant. Mais n'empêche qu'elle a découvert les textures. Je trouvais ça sympa, c'est qu'elle découvre les textures. Bon, après, faut prévoir, hein, parce que bon, tu verras dans n'importe quel enfant qui commence à manger tout seul, mais ça en met partout et tout. Mais c'est impressionnant. Et en fait, ils mangent des légumes comme ça, t'as pas besoin de les mixer. Et moi, j'ai découvert ça avec ma belle-fille.
Mais le repas, il doit durer des heures.
Ah bah c'est sûr que c'est moins facile qu'avec un petit pot que tu vas enfourner, je pense. Il faut
avoir du temps, quoi.
Ouais, faut avoir du temps. Et du coup, justement, je voulais avoir ton avis.
Alors, effectivement, moi, j'ai fait la diversification mixte. C'est-à-dire que c'était ni la DME, ni les petits pots.
Ouais.
Comme je suis très attachée à la nutrition de mon bébé, je voulais être sûre que tout ce que je lui mange, je lui donnais à manger, allait être digéré.
Ouais.
Et je trouve que la DME avant les dents, c'est pas une alimentation efficace.
D'accord.
Parce que on va retrouver énormément de parties solides dans les selles.
Ouais.
Et en fait, ce qu'on retrouve en partie solide dans les selles, c'est ce qui n'a pas été digéré.
D'accord.
Il y a cette partie-là. Et puis,
ça veut dire que l'estomac, lui, va pas le...
Ah bah non, l'estomac, il n'est pas assez mature pour broyer les aliments. Donc voilà. Et puis, toute la partie matière grasse qui peut être aussi oubliée ou laissée sur l'assiette. Parce que l'enfant, il va attraper des morceaux. Mais en fait, si on a mis un petit peu d'huile, bah, l'huile, elle reste dans l'assiette. Elle finit pas dans l'estomac de l'enfant. Donc, moi, je trouve qu'il y a sur certains moments, il peut y avoir des carences. Il peut y avoir aussi des excès. Parce que si la DME est conduite selon le principe de la DME, c'est-à-dire que l'enfant choisit ses quantités, il choisit ce qu'il mange, etc.
Oui.
Des fois, il peut y avoir des excès aussi, par exemple, notamment les protéines animales. Donc il peut en manger beaucoup trop, parce que 10 grammes de protéines, c'est pas grand chose, hein. Il faut vraiment se tenir à ces 10 grammes de protéines la première année, les 20 grammes de protéines la deuxième année, etc. Si l'enfant est un peu grand, on peut rajouter, on peut aller jusqu'à 15 grammes de protéines la première année, jusqu'à 25 grammes de protéines la deuxième année. Mais en fait, l'excès de protéines animales, ça fait trop travailler les reins de l'enfant. C'est trop pour lui.
Bah là, c'était beaucoup
voilà,
des
de légumes. Alors ouais. Concernant les légumes, en fait, avant les dents, on va retrouver beaucoup de morceaux dans les selles, donc moi je suis pas très partante. Il faut vraiment que les légumes soient bien cuits et bien mous. Il faut vraiment pouvoir les écraser entre ses doigts. Mais vraiment, la maman, elle doit pouvoir les écraser facilement entre les doigts.
Là, on pouvait quand même, parce que
voilà.
Les écraser quand même
voilà.
Avec ses doigts.
Voilà. Et comment dire ? Moi, je suis plus partante jusqu'aux 8 mois.
D'accord.
Comme à partir de 6 mois, l'enfant, il sait se tenir à peu près debout.
Ouais.
Ça dépend des enfants. Il commence à attraper les choses. Et ben en fait, on lui remplit des cuillères. Et parce que, par exemple, Marin, on lui a jamais donné à manger à la petite cuillère. Il a toujours fait tout seul. C'est pour ça que je dis que j'ai fait l'alimentation mixte. C'est-à-dire qu'on lui remplissait des cuillères et il les mettait à sa bouche. Et en fait, je lui ai rempli des cuillères comme ça jusqu'à temps qu'il ait suffisamment de capacité de mastication. À partir du moment où il était dans la mastication, je lui ai mis des petits morceaux. Et donc là, il prenait avec ses doigts. Voilà. Mais en fait, il a toujours fait tout seul. Et effectivement, il y en a partout. On avait donc un plateau de DME, donc c'est un plateau qu'il a autour de lui. Le plateau est rempli, voilà. Mais c'est pas forcément plus long à manger. Par contre, ça implique, ça permet aussi aux parents de manger avec leur enfant. Parce que quand on lui donne pas à manger à la petite cuillère, les parents sont à table, ils mangent avec l'enfant, et ça l'incite même à manger. Et ça facilite la diversification. Il y a moins de refus, il y a moins de non, je veux pas manger, etc. L'enfant a vraiment envie de manger tout et d'essayer des choses. Donc, dans mon accompagnement, je vais plutôt sur la diversification mixte, c'est-à-dire des cuillères remplies au début, et puis on va vers les morceaux dès que les premières dents apparaissent et dès qu'on voit que l'enfant commence à mastiquer. Et puis effectivement, il y a ce fameux réflexe de « Ah, j'ai une fausse route, hop, oui. Je déglutis ». Mais ça, c'est super, l'enfant, il l'acquiert et il sait le faire. Et c'est vrai que
ouais, mais c'est impressionnant, faut lui faire confiance. Parce que c'est vrai voilà. Que nous, on lui donne du lait, il va s'entoquer, on va être paniqué.
Oui.
Et là, on leur donne des morceaux et en fait, il ne faut pas paniquer.
Non. Par contre, il faut que l'enfant, il sache se tenir assis droit.
Oui.
Et en fait, il faut qu'il ait les pieds à plat pour qu'il puisse se redresser et aller vers l'avant. Pour pouvoir recracher.
D'accord.
S'il n'a pas les pieds à plat, s'il a les pieds dans le vide, il ne faut pas qu'il ait les pieds dans le vide.
D'accord.
Il faut qu'il puisse avoir un support pour pouvoir se redresser et cracher vers l'avant.
D'accord.
Ça c'est important.
Ah d'accord. Donc la pratique du DME, c'est que si l'enfant peut être
assis,
se tient
assis
bien.
Le dos droit.
Déjà c'est 6 mois, donc d'accord. Souvent 6 mois,
et les pieds, de façon à pouvoir se mettre debout. Quoi.
Voilà. Ouais. Après, comme le lait infantile, voire le lait maternel, peuvent être éventuellement suffisants jusqu'aux 8 mois. Mais en fait, les débuts de la DME, on ne voit pas de carence. Parce qu'en général, le bébé, il est largement nourri jusqu'aux 8 mois. Il a plein de lait infantile ou de lait maternel. Donc, on voit pas, donc en fait, finalement, c'est juste... On lui met des aliments pour qu'il joue avec et qu'il découvre les textures. C'est ouais. très bien. C'est très bien. C'est juste que... Bon, moi, j'ai un petit peu cette envie que tous les aliments que je donne à mon enfant soient digérés. Et donc, à partir du moment où on voit des aliments entiers dans les selles, c'est que ça n'a pas été mastiqué
et ça n'a pas été valorisé. Et ça peut avoir quoi comme conséquence, le fait que, justement, il y a eu des morceaux qui n'étaient pas... Est-ce que ça peut...
Aucune si le lait infantile ou maternel est suffisamment équilibré pour ouais. répondre aux besoins de l'enfant. Par contre, si il y a un allaitement et que le lait maternel, par exemple, est insuffisant, eh bien, en fait... Sur les deux premiers mois, de 6 à 8 mois, on prolonge en fait les carences alimentaires de l'enfant. Parce que des fois, moi je suis pour l'allaitement, j'ai allaité marin jusqu'à 18 mois, mais malheureusement certaines mamans n'ont pas assez de lait. Oui. Et des fois, malheureusement, on ne se rend pas compte en tant que maman qu'on ne produit pas assez de lait. Et du coup, on peut avoir un enfant qui manque en fait d'aliments. Et du coup, commencer la diversification permettrait de compenser, de rester sur un allaitement exclusif, mais de compléter avec des aliments. Et si on commence par une DME, dans le cas où la maman, elle manque de lait, ça ne fait que prolonger la période où l'enfant manque de nutriments.
Ouais, voilà. D'accord.
Donc c'est pour ça que je trouve ça intéressant de choisir son mode alimentaire
parce que ce qui n'est pas digéré,
avec un professionnel.
Parce que ce qui n'est pas digéré, en fait, tout ce qui est nutriments ne va pas aller dans le corps.
Ben voilà, ne sera pas valorisé.
D'accord,
et du
bah
coup,
oui, forcément.
Voilà. Donc moi, je trouve ça intéressant de choisir son mode alimentaire avec un professionnel pour que le professionnel puisse guider la maman vers ce qui serait a priori plus adapté à elle et son enfant. Voilà. Correspondre à ses idéaux, si elle veut maintenir l'allaitement et qu'elle semble avoir une production de lait insuffisante, dans ces cas-là, plutôt commencer par des purées. Comme ça, on est sûr que dans les purées, on met la matière grasse, on met les sources de calcium, on
Tiens,
met les petites protéines.
Si on a des matières grasses.
Justement, se poser des questions par rapport aux matières grasses. Quand est-ce qu'on en met? Dans quelle quantité? Quelles sont les bonnes et les mauvaises matières grasses? On se posait toutes
Parce
ces
que
questions.
Moi, j'ai lu aussi que les petits pots qui existent déjà hein, dans le commerce, ils sont assez salés, mais ils manquent parfois de matières grasses. T'es d'accord avec ça ou pas?
Alors là, je donne un joker. Je n'ai jamais acheté de petits pots, donc je ne peux pas vous dire. Certainement. Voilà, je vais te répondre certainement. Il me semble effectivement que sur les étiquettes, il n'y a peut-être pas forcément beaucoup de matière grasse et peut-être qu'il faudrait rajouter cette fameuse matière grasse. Alors, pour l'ajout des matières grasses, je dirais que ça dépend de comment est nourri l'enfant. Si l'enfant est nourri, donc est allaité, il n'est pas forcément nécessaire de compléter en matière grasse si la maman a une belle production de lait et un lait bien riche. D'accord ?
Oh, mais donc, comment on le sait, ça ?
Eh bien, voilà. En fait, si vous voulez, ça se joue avec un professionnel aussi. Hein. Il faut que la maman observe son enfant. Est-ce qu'il a des petites joues ? Est-ce qu'il est joufflu ? Est-ce qu'il a l'impression de se creuser au niveau du cou ? Est-ce que... Voilà.
Donc, le pédiatre, ça, à la limite, il est capable de
voilà.
le dire.
Ouais. Voilà. Et donc, un enfant qui a été allaité exclusivement jusqu'à 6 mois et qui commence la diversification alimentaire, s'il a toujours bien poussé, eh bien, en fait, il n'est pas forcément nécessaire de compléter avec des matières grasses jusqu'aux 8 mois. On peut commencer l'ajout de matière grasse à partir de 8 mois, c'est que le lait maternel peut suffire. Par contre, si un enfant est nourri au biberon, là, effectivement, il faut commencer l'ajout de matière grasse à partir des 6 mois. Voilà. Après, les recommandations, c'est d'ajouter des matières grasses à partir des 6 mois. Moi, je dis, ça dépend de... si l'enfant reçoit beaucoup de lait maternel ou pas.
D'accord.
Voilà.
Et du coup, ce serait sous quelle
Parce
forme
Parce que je vous dis à titre d'exemple, moi, Marin, il était nourri au lait maternel. J'avais reçu l'information qu'il fallait commencer les matières grasses à partir de 6 mois. C'est ce que j'ai fait, mais en fait, il en avait beaucoup trop parce que mon lait était riche et qu'il avait tout ce qu'il fallait. Et à un moment donné, j'ai dû ralentir parce que je trouvais qu'il était... Enfin, c'était beaucoup trop pour lui. Voilà, donc en fait, c'est vraiment à tempérer en fonction de ce qui se passe dans le duo maman-bébé. Dans les quantités, donc si c'est du lait, si c'est un enfant qui est nourri au biberon, donc au lait maternisé, ça va être une petite cuillère à café midi et soir.
Et tu vas mettre quoi comme matière grasse du coup ?
On met quoi comme matière grasse ? Alors moi, ce que je recommande, c'est un repas avec des huiles riches en oméga-3. Donc ça va être lin, chanvre, cameline, colza, noix.
D'accord.
Voilà, une de ces huiles-là en général.
D'accord, de l'huile du coup, hein, mais pas voilà, de
ouais,
l'huile mais riche en oméga-3.
Des huiles végétales riches en oméga-3. Et puis le deuxième repas, une huile autre qui va être par exemple de l'huile d'olive riche en oméga 9 ou sésame ou tournesol riche en oméga 6. Voilà. Donc ça va être l'autre repas, ça va être tournesol, sésame ou olive.
En fait, il faut varier les oméga.
J'aime bien varier les oméga. Voilà. Que dans la journée, il y a eu des oméga 3 et des oméga 6. Voilà. D'accord. Donc ça, c'est des matières grasses végétales. Après, vous pouvez très bien, de temps en temps, lui proposer du beurre cru. J'aime bien insister sur le beurre cru.
Ouais.
Il est pas, en fait, ça, enfin, s'il est frais, si on l'a acheté fraîchement chez son crémier ou en magasin bio. Voilà. Après, si c'est un beurre cru qui a déjà passé plusieurs semaines dans le frigo, il vaut mieux éviter.
D'accord.
Voilà. Mais parce qu'on apporte de la vitamine E et de la vitamine A avec le beurre. Voilà.
Ouais, en fait,
parce que moi je suis pas vitamine, du tout, je suis pas du tout dans l'éviction. Je suis juste dans la modération des produits laitiers. D'accord. Ça reste intéressant de lui donner de temps en temps des matières grasses animales pour rester dans la sensibilisation, aussi bien gustative que qu'allergique. Voilà.
Allergique, ouais. J'avais une maman qui me posait la question si on doit donner des œufs à un enfant, enfin un bébé, un nourrisson, est-ce que on est bien d'accord que c'est des œufs, enfin durs, quoi?
Je confirme que l'œuf proposé à l'enfant, ça va être soit un œuf dur, bon moi je suis pas fan de l'œuf dur, ou ça va être juste le jaune pris,
d'accord.
Vous voyez, légèrement fondant.
D'accord.
Voilà, moi je suis plus vers ça, parce qu'en fait,
on peut pas par exemple donner des œufs brouillés.
Bah si vous voulez, si. Vous pouvez donner une omelette.
Parce que c'est plus facile, un œuf brouillé pour l'enfant, c'est plus,
oui.
C'est moins lourd.
Ah ben c'est un œuf brouillé ou une omelette en général. D'ailleurs, quand on introduit l'œuf, on commence par une lanière de crêpe ou une lanière d'omelette, voilà, ou de l'œuf dur mixé dans une purée. En général, on commence à introduire l'œuf comme ça.
D'accord.
Faut savoir que juste dans le jaune cru, il y a des oméga 3, justement. Il y a du bon cholestérol. Et en fait, quand le jaune cuit, le cholestérol est moins bon. On va vers du mauvais cholestérol et on perd les oméga 3. Donc, c'est pour ça que j'essaye pour les bébés de proposer aux mamans d'acheter des œufs de qualité, frais, et puis d'aller vers une cuisson jaune fondant.
Ouais.
Alors, pas coulant, pas mollé, mais fondant. C'est-à-dire juste le jaune pris. On n'est pas sur un œuf dur, mais on n'est pas sur un œuf à la coque. On est sur une cuisson un peu intermédiaire pour essayer de préserver un petit peu les bienfaits du jaune.
C'est mollé entre les deux, c'est ça? C'est quoi, 6 minutes?
C'est mollé,
ouais. Plutôt, on va plutôt vers 7 minutes. Quand je le fais pour mon fils, on est plutôt sur 7 minutes. Et surtout des œufs frais. Voilà.
Ouais, bah oui, c'est vrai que...
Voilà, on va essayer quand même de choisir son producteur ou son label pour choisir ses œufs.
D'accord. Concernant les farines infantiles, parce que moi j'en avais jamais entendu parler.
Oui.
On dit qu'à partir de 6 mois, elles peuvent être mélangées à un laitage ou à une soupe de légumes en petite quantité. Ça va lui fournir de l'énergie.
Oui, c'est ce qu'on appelle les glucides, tout simplement. Donc là, c'est une façon d'apporter des glucides à l'enfant. Encore une fois, je vous dis à titre d'expérience personnelle, marin, je suis partie aussi dans cette idée-là qu'à partir de 6 mois, on commençait la diversification. À partir de 7 mois, on introduisait les protéines animales, donc 10 grammes de viande, etc. Et à partir de, je ne sais plus si c'était 7 ou 8 mois, il faudrait que je revoie, on introduit les premières bouillies de céréales. Voilà. Donc moi, je lui donnais un repas protéines, c'est-à-dire un repas légumes avec un petit peu de viande, poisson ou œufs, et un repas glucides dans lequel il y avait des légumes et une bouillie de céréales. Et je l'ai vu gonfler, il était bien gonflé. Donc en fait, en gros, c'est pas forcément quotidien, c'est vraiment c'est intéressant, c'est une source de glucides, mais elle est pas forcément nécessaire en fonction de ce qu'a mangé l'enfant dans sa journée. Mais effectivement, donc on appelle ça des céréales infantiles. Moi, j'aime bien aussi proposer la diversification alimentaire sans achat de produits spécial enfants. D'abord, ça fait des économies. Et en fait, qu'est-ce qu'on va chercher dans ces cas-là? On va chercher en magasin bio un produit qui s'appelle crème de riz ou crème d'avoine. C'est des farines de riz ou farines d'avoine pré-cuites. Donc, c'est ces fameuses céréales pré-cuites qu'on retrouve dans les bouillies des enfants.
D'accord.
Parce que pour qu'une céréale soit une céréale infantile, elle a été pré-cuite. C'est juste ça. Et elle a été moulue finement. Elle est pré-cuite et moulue finement.
D'accord.
Et donc vous pouvez très bien aller en magasin bio, acheter ces fameuses crèmes d'avoine ou crèmes de riz, et puis vous faire vos propres céréales infantiles. Il faut savoir aussi que tous les flocons ont été cuits à la vapeur et laminés, donc c'est-à-dire que tous les flocons sont cuits. Donc un flocon d'avoine a été pré-cuit, un flocon de quinoa a été pré-cuit, un flocon de riz a été pré-cuit, etc. Donc vous pouvez très bien acheter des flocons bruts et les mixer en farine. Vous avez dans ces cas-là des céréales infantiles.
Donc,
vous pouvez acheter aussi des flocons de sarrasin, etc. Donc moi j'achetais des produits bruts que je mixais en céréales infantiles. Donc flocons de sarrasin, flocons d'avoine, etc.
D'accord.
Super.
Ouais, on n'a pas du tout, on n'a pas eu tout ça. Moi,
et comme ça, ça fait des produits adaptés pour toute la famille.
Ouais, en plus, ouais, ça va tout le monde. Mais moi, ça, c'est marrant, quand je t'écoute, je me dis, mais on n'avait pas tout ça. Et des fois, je t'écoute, et des fois, je me dis, mais qu'est-ce que j'ai fait, moi, au fait?
Moi, je ne me rappelle plus.
Bah oui, je ne me rappelle plus, mais je me dis, bon, ils sont en bonne santé quand même.
Oui, enfants, certainement, très bien aussi.
Ouais. Mais c'est
l'évolution, c'est ça.
Bah ouais. Ouais, mais tu vois, je pense que du coup, c'est l'évolution qui. Parce qu'en fait, je pense à tout ce qui est allergène, tout ce qui est.
Non, les problèmes de santé, etc. Je pense un petit peu moins, ouais. Mais parce qu'il y en avait moins.
Mmh. Et tu te dis peut-être qu'il y a plein de maladies, plein quand de même. Trucs comme ça qu'on a déclenché en donnant certaines choses. Et en fait, en sachant tout ça, il y a peut-être des allergies qu'on peut éviter. Et je trouve ça génial, l'évolution. Heureusement qu'il y a des personnes comme ça qui sont passionnées.
En fait, la diversification alimentaire se précise d'autant plus que les problématiques allergiques chez les enfants sont
de plus en plus
nombreux. Ouais. Donc en fait, on a besoin de resolidifier les terrains. Donc c'est l'objectif du naturopathe, hein, c'est de nettoyer et de solidifier les terrains. Et donc en apportant des aliments complets, bruts, peu transformés, non raffinés, sans ajout de colorants, conservateurs, etc., on arrive à compenser des carences, éviter les problématiques allergiques, etc. Donc c'est tout mon objectif.
Parcours,
voilà.
Oui, parce que tu me disais aussi par rapport aux adultes, tu les accompagnais, bon, ça n'a rien à voir avec les enfants, mais quand même il y a des mamans aussi, que tu accompagnais les femmes, et donc du coup tu faisais, alors je te parlais de l'alimentation intuitive, parce qu'on a fait une émission avec Marion qui faisait l'alimentation intuitive, et tu me disais que toi c'était un peu différent, les mamans sont contentes
chacun,
aussi,
ouais.
et que toi par contre, détoxifiais. Alors, pour que la personne arrive à ressentir ses besoins, enfin, c'est ce que j'ai compris en tous les cas.
Alors, en fait, entre guillemets, je mets de grands guillemets à détoxifier, parce que j'encourage
pas. C'est le mot
que
j'ai employé pour donner mon idée de ce que j'ai perçu, hein, le bon mot.
Oui, bien sûr. En fait, je fais ce qu'on appelle un programme alimentation-vitalité et j'aide les femmes à se reconnecter à leurs ressentis physiques et digestifs. Et j'expliquais à Katia que avant d'aller vers de l'intuition, ça c'est mon vécu, hein, je parle en mon nom.
Mais non, mais c'est très sympa d'avoir plusieurs méthodes.
Oui, avant d'aller vers de l'intuition, il me semble qu'il est intéressant d'aller vers de la compréhension physiologique. Comprendre pourquoi tel aliment me va bien et en faire l'expérience qu'il me réussit. Ouais. Et donc moi, je fais ces programmes sur 3 semaines parce que ça permet en fait à la femme de cheminer, de tester l'aliment chez elle, de se confronter à la difficulté qui est de changer d'alimentation. Et puis au bout de 3 semaines, en fait, il faut 21 jours pour un corps pour changer d'habitude.
Ah bah,
et
ben
en fait,
cerveau, en fait,
elle peut mesurer le chemin parcouru et le mieux-être ressenti. Et en fait, c'est ça que j'appelle une détoxination. Donc c'est pas un régime, c'est pas une détox. Finalement, c'est changer ses habitudes et se détoxiner, par exemple, s'éloigner de cette addiction, par exemple, au sucre, aux farineux, aux produits laitiers, etc. Donc, en fait, je vais vers un éloignement des addictions, qui est une forme de détoxination, finalement. Et on allège son corps et son esprit, et on va vers une forme d'intuition.
Est-ce qu'il y a une perte de poids, quand même
Alors, elle se fait naturellement. Et moi, j'accompagne pas sur la perte de poids, j'accompagne vraiment sur le ressenti. Donc, on met de côté la balance, et en fait, on est là pour se faire plaisir et pour comprendre. Donc dans ce programme, c'est un programme de 3 semaines dans lequel j'apporte vraiment plein d'outils pédagogiques où j'explique pourquoi il faut mieux aller vers tel aliment, pourquoi il vaut mieux s'éloigner de tel aliment. Je donne des solutions de remplacement parce que c'est super important. Et puis, je les invite vraiment à s'inspirer des recettes que je propose, notamment quand on est sur la partie sucrée, etc. Voilà. Et donc, la question, c'était...
Non, mais moi, par contre, je rebondis ce que tu dis, parce qu'en fait, je suis tout à fait d'accord avec le fait que le corps, il va s'habituer ou se déshabituer.
Oui,
c'est un peu ça.
Ça.
Parce que je sais que moi, mon chéri, il a eu des problèmes de tension. Oui. Et on a, par rapport à tout ça, on a limité la viande, on a enlevé beaucoup les laitages, notamment les yaourts, on a changé pour des yaourts au soja.
Oui.
Mais moi, c'est pas facile de manger des yaourts soja parce que c'est complètement différent. Et donc, du coup, moi, je gardais toujours mes yaourts à moi et il avait ses yaourts au soja. Et en fait, c'est la semaine dernière où j'avais plus mes yaourts à moi et j'avais pas le courage d'aller en rechercher juste pour ça. Donc du coup, j'ai mangé des yaourts au soja. Et quand j'étais refaire les cours, j'ai pris des yaourts à la grecque, donc des trucs bien gras, et que je mangeais assez facilement avec mes yaourts que je prends habituellement au lait de vache. Et quand j'ai mangé mon yaourt à la grecque, je me suis dit, mais c'est hyper gras, ça en devenait dégoûtant, parce que pendant 4 jours, j'ai mangé yaourt au soja.
Moi, j'adore yaourt au soja.
Bah ouais, mais c'est alors, fou comme quoi le corps, il s'habitue. Oui. Et nous, c'est pareil par rapport à sa tension, mais plus de sel nulle part. Et en fait, dès qu'on va quelque part, on trouve ça hyper salé, bah ouais, parce que partout dans les restaurants, dans ça. Et en fait, c'est comme quoi le corps se déshabitue facilement. Et en fait, tu vas mettre du sel ou du sucre ou du gras, t'es habitué, mais quand tu l'enlèves, ça se fait hyper vite, en fait.
Oui, et je mets juste une petite mention sur les yaourts au soja.
Oui, vas-y.
Faut juste le soja, c'est un phytoestrogène, donc c'est quelque chose qu'on va essayer de consommer ponctuellement dans sa semaine, c'est-à-dire pas quotidiennement.
D'accord.
On sera autour de.
Je suis tout le mal.
Moi, je conseille plutôt autour de maximum 3 produits à base de soja dans sa semaine.
D'accord.
Et le soja fait partie d'une alimentation diversifiée. Mais pas d'un aliment quotidien. Oh. Ouais. En fait, il faut bien se dire que.
Alors, du coup, tu prends quoi comme yaourt à côté si on a envie de manger des yaourts?
Oui, non, mais en fait, si vous voulez, moi, j'invite vraiment à diversifier ses desserts. Par exemple, en dessert, le dessert minute, quand on n'a pas le temps, ça va être une compote de pommes, des petites dattes coupées en morceaux et quelques noisettes, par exemple. Donc on se fait comme une sorte de miam aux fruits. J'aime bien aussi l'été proposer des glaces. Donc dans ces cas-là, je fais des framboises surgelées avec une compote de pommes. Je mixe tout, ça fait un sorbet minute.
D'accord.
Dans lequel vous pouvez me rajouter un filet de purée d'amandes. Ça fait une glace à la framboise et aux amandes, par exemple.
D'accord. Et tout ça, c'est sur
Mon blog. Ouais. Après, il y a les flans véganes. Donc vous allez, par exemple, prendre un lait d'amande dans lequel vous allez mettre de la compote de pommes, un peu d'agar-agar. C'est un gélifiant végétal. Donc, lait d'amande, compote de pommes, agar-agar.
C'est une poudre, en fait.
Voilà. Vous pouvez mettre du cacao, de la noix de coco râpée. Vous faites frémir et vous versez dans des petites coupelles et ça fait un flan au cacao.
Génial.
Un flan coco cacao.
Ce soir, je vais aller regarder le blog de.
Et là, vous en faites pour un litre, ça fait 8 flans au coco cacao. Ça vous fait 8 yaourts, entre guillemets.
D'accord.
Donc, vous voyez, en fait, vous faites plein de petits desserts comme ça, régulièrement dans la semaine, quotidiennement. Comme ça, il y a toujours ce côté, cette douceur de fin de repas.
Et gourmand quand même.
Voilà. Moi, pendant l'hiver, j'adore cette crème à la patate douce. Donc, en fait, patate douce vapeur, datte, amande. C'est que 3 ingrédients. Je mixe tout, ça fait une crème à la patate douce, hyper onctueuse, hyper bonne, et ça fait une crème dessert. Vraiment, tout ça, c'est sur mon blog. J'ai une crème au pané aussi, donc c'est poire vapeur, pané vapeur, avec purée de noisettes, ça fait une crème poire pané noisette. Et tout ça, en fait, ça fait des crèmes dessert.
Et ça, on peut en manger le soir sans problème, ça,
c'est en fait, c'est une continuité du repas, parce que vous mangez des légumes en dessert.
D'accord.
Et c'est... entre guillemets, à volonté. Vous pourriez en prendre même l'équivalent de yaourt, entre guillemets. Parce que c'est sans sucre ajouté. En fait, moi, avant d'être sur une restriction alimentaire, je suis sur un choix alimentaire. Et à partir de là...
Une contrepartie même, je trouve. Enfin, j'ai l'impression d'entendre que si on peut éliminer ça, il va y avoir autre chose qui va permettre qu'on n'ait pas, pas l'impression de se priver et qu'on n'a pas le droit de...
Et ce qui est important, c'est d'être dans l'abondance, entre guillemets. C'est-à-dire ne pas se sentir frustré. La restriction, entre guillemets, la réduction alimentaire, elle se fera petit à petit, quand le ressenti sera de plus en plus là.
D'accord.
Mais dans un premier temps, il faut déjà aller sur la substitution.
D'accord, ouais, j'aime bien.
Voilà, les enfants, c'est un petit peu écarté de notre sujet.
Oui, mais c'est
sujet,
parce
hein.
qu'il y a des mamans qui...
Mais en fait,
aussi,
non, c'est pas écarté du sujet, parce que si vous voulez, toute cette crème pralinée aux poires...
C'est pour les enfants aussi.
Tout ça, je les ai inventés pour que Marin ait des desserts.
Ouais, donc ça peut être fait pour les enfants et les habituer à une alimentation
Exactement.
Saine et les apprendre à cuisiner ça et ce qui va permettre qu'eux prennent des bonnes habitudes que nous on n'avait pas forcément.
C'est
donc
vrai.
Je trouve ça dans la continuité en fait.
Mm.
Et puis rééduquer les parents pour pouvoir éduquer correctement les enfants entre guillemets.
Oui. Alors, on va devoir bientôt rendre l'antenne.
Oui.
Moi j'avais juste une petite dernière petite chose à voir avec vous. En fait je voulais qu'on reconfirme des petites astuces pour une diversification réussie. C'est surtout par rapport au comportement de l'enfant. Par exemple,
On dit qu'il faut éviter tout conflit pendant le repas. Ça doit rester un moment d'échange et de plaisir. Tu confirmes que... Comment on fait, du coup, si mon enfant, il n'a pas envie d'un légume? Est-ce que tu insistes ou non, tu laisses tomber, toi? Tu serais comment?
Alors, moi, je propose les légumes dans l'assiette. J'ai la chance d'avoir un enfant qui goûte à tout. Par contre, ça peut lui arriver de goûter et de ne pas aimer.
Ouais.
Eh bien, c'est pas grave. Je le félicite même. Je lui dis « Bravo, tu as goûté ». Tu n'as pas aimé, mais par contre, bravo, tu as goûté. Je suis fière de toi. Et ensuite, je laisse manger ce qu'il a envie. D'ailleurs, je retire ce qu'il n'aime pas de l'assiette pour éviter qu'il s'énerve.
D'accord.
Ça sert à rien de l'énerver. Et puis, vous le reproposez un autre jour. S'il en veut pas, c'est pas un problème. En fait, il faut surtout que ce qu'il mange soit équilibré. Après, s'il préfère autre chose, c'est pas un souci.
D'accord.
Voilà.
Comme nous, on n'aime pas tout non plus. Donc,
ouais.
Donc il faut varier les aliments et apprendre à son enfant à découvrir de nouvelles saveurs. Ça, tu nous l'as dit.
Oui,
et puis qu'est-ce que j'avais vu aussi?
Respecter les horaires de repas.
Ouais, c'est
aussi
important ça, non? Respecter
alors,
les horaires.
Et éviter les grignotages.
Oui, bah oui. Alors, pour qu'une diversification alimentaire soit réussie, moi j'encourage les parents à manger avec leurs enfants. Ça, c'est super important de manger des choses qui s'en rapprochent. C'est-à-dire que moi je dis pas qu'à partir de 1 an, l'enfant il mange comme les parents. Ça, c'est pas vrai. Des fois, j'entends dire ah ben hop, mon enfant il mange comme nous maintenant. C'est pas vrai.
D'accord.
On attend. Il y a quand même un effort à faire jusqu'au moins 2 ans. Donc essayer de cuisiner sans sel. Et vraiment, voilà, il y a un effort à faire. Donc en fait, il y a juste une portion des légumes qui est réservée pour l'enfant et ensuite on assaisonne pour les adultes à côté. Voilà. Donc grosso modo, il a son assiette qui ressemble à la nôtre parce qu'il y a les mêmes couleurs, sauf qu'en fait, les légumes ont été préparés un peu différemment. On essaie de manger avec son enfant, surtout on essaie de l'encourager à faire tout seul. Donc on remplit ses cuillères, il les met tout seul dans sa bouche, il y en aura partout, il y en aura vraiment partout. J'invite à prendre un plateau de DME, comme ça on évite de salir tout le sol. Dès qu'il a suffisamment de dents et de capacité de mastication, on lui propose des morceaux fondants. Et puis aussi, tous les astuces, donc j'aime bien quand il bloque sur un légume, essayer de lui reproposer, mais avec de la crème de coco ou de la crème d'amande. Lui mettre une petite épice dedans, ça il aime bien aussi. Et puis j'ai mes poudres magiques. Donc ça c'est en fait une tour doseuse, donc c'est une tour doseuse de lait. Et en fait à chaque étage, au lieu d'avoir du lait infantile, j'ai mes poudres magiques. Donc là par exemple j'ai un étage de sésame moulu. Là j'ai un étage de graines de courge moulues. J'ai un étage de graines de tournesol moulues. Un étage de chanvre, de graines de chanvre moulues. Et un étage de graines de chia moulues. Et en fait, je vais venir saupoudrer ces poudres magiques sur, par exemple, les légumes.
Et une à chaque fois.
Alors, une différente à chaque repas.
D'accord.
Le sésame est riche en calcium. La graine de courge, ça va être des protéines et minéraux en général. Tournesol, le fer. Chanvre, protéines. Chia, calcium. Le chia, ça se met que dans les compotes, hein, pas saupoudré sur les légumes. Et en fait, quand vous saupoudrez sur les légumes, vous dites « Oh, on met un petit peu de poudre magique !» Et alors, et là, il est super content. Magique, 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 c'est fou. Et donc, ça encourage à manger. En plus, ça donne un côté croustillant, il y a un peu de texture. Voilà. Donc, on joue sur les crèmes végétales, sur les poudres magiques. D'ailleurs, les poudres magiques, au-delà d'être magiques au sens coloré du terme, elles apportent plein de protéines, de minéraux, de tout ce qu'il faut. Et puis, on ajoute des petites épices. Si l'enfant aime, s'il n'aime pas, c'est pas grave.
D'accord.
Voilà.
Super. Okay. Bon, bah écoute, on a appris plein de choses ce soir.
Je suis ravie. Merci, Perrine. Un petit dernier mot de la fin, on te laisse.
Ouais, à la limite, si tu avais un mot de la fin.
Un petit mot de la fin. Je vous remercie de m'avoir invité pour parler d'un sujet qui me tient à cœur.
Bah, on a senti qu'il y avait la passion.
Je suis extrêmement passionnée. Oui,
ça fait plaisir d'avoir des témoignages et des personnes comme toi qui viennent justement pour parler un petit peu de leur passion. Et puis, c'est toujours très intéressant d'avoir... ces informations que nous,
on n'a pas connues.
Voilà, ouais. On n'a pas connues. Puis tu vois, on a beau faire des recherches sur Internet, c'est quand même plus enrichissant d'avoir vraiment la personne professionnelle qui peut vraiment...
Oui, parce que quand tu cherches sur Internet, tu n'as pas toutes les réponses.
Non.
Il faut
absolument, cher maman, cher papa, aller voir
le
Perrine.
Blog.
mais peut-être aussi. La consulter tout simplement.
Ah bah oui. Pour avoir des astuces et puis être adapté à chaque enfant et à chaque manière d'être des parents aussi. Tout à fait.
Vraiment, moi, je suis très ouverte et l'essentiel, c'est de s'adapter au duo parents-enfants.
Ouais.
Et je voulais aussi dire que je vais profiter du mois de juillet, donc c'est-à-dire période un petit peu de calme, parce que j'ai un emploi du temps qui est assez complet jusqu'au mois de juin, pour proposer des ateliers sur la diversification alimentaire à l'alchimie.
Ah, cool. Ah, en plus, ils sont venus il y a 15 jours.
C'est trop bien.
Voilà. Donc là, il y aura à la fois de la théorie et de la pratique.
Et donc, ce sera au mois de juillet. Donc, il suffit d'aller sur le site de l'alchimie. Et à la limite, sur le tien, ce sera sûrement marqué, mais au pire, ce sera affiché.
Pour l'instant, on ne l'a pas encore annoncé, mais on est en train de bâtir ça pour le mois de juillet.
D'accord. Bah, écoute, voilà. Nous, si on est là à ce moment-là, je pense que
c'est très intéressant. Merci, Perrine. Merci d'être là, chers auditeurs, comme chaque mercredi. Et on vous retrouve la semaine prochaine. Et un petit bisou à Ludo qui nous écoute.
Ouais, salut Ludo.
Ciao, ciao.
Salut.
Bonne soirée.
Bonne soirée.